Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon mardi. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro qui vous accompagne au cours des 30 prochaines minutes. Oui, c'est l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Depuis quelques années, on entend beaucoup parler des probiotiques. Ils sont d'ailleurs de plus en plus accessibles pour les consommateurs parce que intégrés dans les produits que l'on retrouve en pharmacie, oui, en épicerie notamment, comme dans les produits laitiers, dans les jus, les céréales ou encore vendu sous forme de suppléments. Ça, c'est plus, bien sûr, sur les tablettes à la pharmacie. Et pour cause, on prête beaucoup de vertus aux probiotiques. Les experts semblent même s'entendre. Hein. Ça, c'est pas toujours évident pour dire qu'ils sont vraiment un atout pour notre santé et même en termes de prévention, ce qui n'est pas à négliger. En deuxième partie d'émission, Patrick Despaquette, microbiologiste agréé, également biochimiste. Il est président de l'Association des microbiologistes du Québec, sera là pour nous en parler davantage. Et puis, inspirer les hommes à vivre une vie plus saine, à faire de leur santé une priorité et aussi à valoriser de saines habitudes de vie. Et tout ça par l'adoption de choix simples, accessibles dans le quotidien. Ben oui, c'est possible. Et c'est même l'un des buts de la Semaine de la santé des hommes qui débutait hier, 15 juin, qui se poursuit jusqu'au 21 juin pour nous en parler davantage. Docteur François Bénard, directeur de la division d'urologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Docteur Bénard, bonjour.
Bonjour.
C'est la deuxième édition de la Semaine de la santé des hommes du Canada, donc la deuxième année, et ça vient d'une initiative de la Fondation pour la santé des hommes du Canada, dont vous êtes conseiller. Et j'ai l'impression, corrigez-moi si je me trompe, que ça vient de ce constat que la santé des hommes, c'est encore un grand, grand enjeu, un enjeu qui est encore souvent oublié et que ça demande peut-être un petit peu plus de sensibilisation.
Oui, c'est le but de la Semaine de la santé. La fête des pères s'en vient, puis on sait malheureusement que les hommes vivent moins longtemps que les dames. On sait aussi qu'ils vivent les 10 à 15 dernières années de leur vie en bien moins bonne santé, avec une moins bonne qualité de vie, parce qu'ils ont des complications de différentes maladies qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est traditionnellement comme ça. Les hommes prennent moins soin de leur santé, consultent moins les médecins. Lorsqu'ils les consultent plus tardivement. Et souvent, ils prennent pas soin de leur santé jusqu'à tant qu'il leur arrive une complication majeure, comme un infarctus du myocarde ou encore un accident cérébrovasculaire qui soit paralysé. Puis là, il commence à être un peu trop tard pour en prendre soin, autrement dit. Alors, on aimerait sensibiliser les hommes que leur santé, c'est important, qu'ils peuvent en prendre soin puis qu'ils peuvent faire des petites choses. Là. Ils n'ont pas besoin de faire des changements drastiques. On ne leur demande pas de courir le marathon ou 5 km 3 fois par semaine. Il y a des choses simples dans leur vie qu'ils peuvent faire.
Oui, et c'est un petit peu la base de cette campagne de sensibilisation. C'est de changer, bon, certains choix, mais ça doit demeurer simple.
Oui, tout à fait. Écoutez, quand les gens viennent nous voir, surtout à partir de 35 ans et plus, on leur dit, ben là, faut arrêter de fumer, faut avoir une diète plus saine, moins riche en graisse, plus de fruits et de légumes, faire attention à votre cholestérol, faire plus d'exercice, perdre du poids. Quand on dit tout ça, il n'y a rien qui se passe, en fait. Mais on peut leur donner des trucs qui sont plus simples. En fait, leur dire, écoutez, pour l'exercice, ben vous faites strictement rien. Ben peut-être qu'au lieu d'envoyer vos enfants sortir le chien puis promener le chien, ben allez-y trois fois par semaine pendant 20 minutes sortir le chien. C'est pas de courir 5 km dans la journée. Puis ça peut faire un changement, ça en fait un peu l'exercice. La même chose, il y en a qui aiment beaucoup le fast-food. Ben, ils peuvent toujours y aller, mais au lieu de prendre le hamburger standard, ils pourraient prendre aussi de la dinde sans mayonnaise avec ce qu'ils veulent par-dessus, puis mettre un pain de blé entier. Déjà, ça fait une différence. Ils viennent de couper de la graisse un peu dans l'alimentation, d'augmenter la qualité de leur alimentation sans nécessairement faire des choix drastiques là à l'eau de blé. Alors, c'est ce qu'on dit aux gens. Il y a des petites choses qui peuvent être faites pour surveiller ça. perdre du poids, il y a la boisson qu'on consomme, hein, qui est la boisson alcoolisée. Des fois, il y a une surconsommation. Juste diminuer ça, des fois, peut faire perdre du poids de façon considérable à des gens, là. Alors,
et tout ça, mais on se rend compte que c'est possible et qu'on peut même intégrer toute la famille, que ce soit la conjointe, les enfants aussi, dans ces choix tout simples du quotidien.
Oui, absolument. On le voit dans certaines familles. En fait, c'est les dames qui nous amènent leur mari, admettons, pour nous en urologie, pour le dépistage du cancer de la prostate ou des choses comme ça. Hein, puis c'est les dames aussi qui surveillent la santé de leur conjoint. Alors, d'habitude, on n'a vraiment pas de difficulté à avoir l'aval des dames pour aider la santé de leur mari. C'est plutôt l'inverse, c'est les hommes qui sont un peu réticents, parce que c'est souvent leurs dames qui veulent qu'ils fassent attention à leur santé, parce que finalement, quand on regarde ça, il y a quand même une proportion non négligeable de dames qui vont finir à l'autre bout de la ligne célibataires plus tard, parce qu'en haut de 65 ans, il commence à rester pas mal moins d'hommes là, par rapport au nombre de dames.
Et les chiffres sont assez révélateurs en ce sens. On dit que près de la moitié des femmes canadiennes sont veuves à l'âge de 65 ans.
C'est ça. Tout à fait. Autrement dit, ils commencent à manquer d'hommes parce qu'ils ont eu toutes sortes de complications. Puis c'est pas. Puis le site Fondation de santé des hommes .ca là, où on suggère d'aller pour avoir les informations. On parle pas juste aussi d'hommes en haut de 35 ans. Il y a les hommes en bas de 35 ans. Les accidents de la voiture, les suicides sont beaucoup plus nombreux que du côté féminin. C'est comme si les hommes se sentent invincibles, veulent pas consulter, attendre à la dernière minute. Ensuite de ça, il y a les maladies transmises sexuellement qui sont fréquentes. Il y a l'abus de drogue ou d'alcool à ces âges-là. Autrement dit, on essaie de donner des conseils aux gens pour essayer de voir qu'est-ce qui les rend à risque à l'autre bout de la ligne, puis de leur dire, ben, ne vous gênez pas pour consulter, puis on sait que c'est pas toujours facile de consulter, on va vous donner quelques trucs qui peuvent être révélateurs, ou il y a des petites choses. Quand on est plus jeune, puis on a beaucoup de troubles de sommeil, ça nous donne c'est un facteur de risque de faire une dépression ou un épuisement professionnel qui peut mener au suicide. Alors, il faut faire attention à ça. On leur dit, sur ce site-là, on peut même répondre à un petit questionnaire qui nous permet de voir où est-ce qu'on est vulnérable au point de vue santé, puis qu'est-ce qu'on devrait corriger un petit peu sans faire nécessairement des choses drastiques, là.
Ce que vous venez d'énumérer, Dr Bénard, ce serait en quelque sorte des obstacles à la santé des hommes, c'est-à-dire de moins communiquer, de peut-être un petit peu moins en parler, d'aller moins chercher l'appui aussi des pères. Ça fait partie des entraves à une meilleure santé des hommes.
Absolument. Puis, je pense qu'il faut passer par-dessus ces entraves-là. Puis, les cultures changent. Je pense qu'on n'est plus rendu là du temps où est-ce qu'on se croit invulnérable, puis on ne veut pas montrer notre vulnérabilité. Je pense qu'il faut passer par-dessus parce que quand on fait un accident cérébrovasculaire, on est paralysé ou un infarctus, puis on ne peut plus faire le sport qu'on voulait faire, on est encore plus vulnérable, puis on s'en mord les pouces, là. Mm-hmm. Alors, je pense qu'il faut prendre le tour pour les cornes. Puis c'est des choses simples qu'on suggère, là. Perdre un petit peu de poids, avoir une meilleure alimentation, un peu plus saine, essayer de cesser de fumer ou de diminuer nettement, faire un peu plus d'exercice sans que ce soit dramatique, là. On ne demande pas aux gens de courir le marathon ou de faire des choses comme ça.
Oui. Maintenant, quelles sont les actions plus concrètes de la semaine de sensibilisation? Je pense qu'il y aura des auto-vidéos. Ben, probablement qu'elles sont déjà en ligne.
Oui, écoutez, on a des représentants. On a des joueurs de hockey, Trevor Linden qui est avec nous, Adam Kirk qui est un champion olympique là, de bateau, en fait, de pédalo, mais pour la rame, dis-je. Mm-hmm. Autrement dit, il y a quelques représentants là, qui vont faire des vidéos, qui vont parler de ça. On encourage les gens à aller sur le site Fondation de santé des hommes.ca. On peut faire un pledge, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on peut mettre notre nom et on peut même encourager quelqu'un à aller visiter le site. Autrement dit, si un père a son frère ou son fils qu'il aimerait qu'il aille voir ce site-là pour prendre des informations, on peut aller là-dessus. Et on donne plein de trucs, en fait, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier ses habitudes de vie, puis des trucs simples là, pour être en meilleure santé, puis des petites choses qu'on peut modifier dans notre vie là, pour être en meilleure santé. Alors, on peut retrouver ça là-dessus. Toute la semaine, on va essayer d'en parler parce qu'on aimerait que les gens puissent fêter pendant plusieurs années avec leurs conjoints, conjointes et leurs enfants, la fête des pères plusieurs fois plutôt que d'être malade et pas pouvoir ou d'avoir une longévité de vie qui est hypothéquée à cause de tout ça.
Et bien sûr, on guidera les gens sur le site de Canalem à aller visiter le site de la Fondation pour la santé des hommes du Canada. Et on invite aussi, parce qu'il y a une initiative de Movember qui a lancé finalement une radio, des fichiers balado pour inspirer aussi les hommes par des témoignages, des témoignages personnels, enrichissants, souvent pleins d'humour. Tout ça, ben, encore pour inspirer les hommes à ben, être plus en santé, bien sûr. Donc, movember.com là, pour en savoir davantage sur cette radio. Donc, Dr. François Bénard, merci beaucoup de nous avoir parlé de la santé des hommes aujourd'hui. On vous en souhaite une bonne, évidemment.
Merci.
Et puis, on rappelle que vous êtes directeur de la division d'urologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Bon été, Dr. Bénard.
Merci à vous aussi. Bonjour.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Patrick Despaquettes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes microbiologiste agréé, biochimiste, président de l'Association des microbiologistes du Québec et microbiologiste chez Bioca+. Ça donne bien. Aujourd'hui, on parle des probiotiques qui ont, je le disais tout à l'heure en introduction, la bonne cote en ce moment, populaire. On les appelle les bonnes bactéries, les micro-organismes gentils. On leur attribue des vertus quasi magiques à ces probiotiques-là. Tout d'abord, je pense que pour bien comprendre, il faut savoir qu'on a des bactéries à l'intérieur de nous. Certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises. Comment on peut départager tout ça?
Mais en fait, comme vous dites, il existe, on pourrait classer facilement les bactéries en deux groupes. Hein, les bactéries qui sont, comme vous soulignez, qui sont mauvaises, donc des bactéries pathogènes qui causent des infections, qui causent des maladies infectieuses et des problèmes de santé. Et sinon, l'autre groupe de bactéries qu'on va appeler davantage des bonnes bactéries, donc des bactéries qui ont un effet bénéfique sur notre santé. Et quand on regarde au niveau de notre système digestif, là où on a près de 100 000 milliards de bactéries, donc c'est quand même un nombre assez important. Le rôle de ces bactéries-là dans notre flore digestive, maintenant qu'on appelle surtout le microbiote intestinal, c'est le nom que ça porte maintenant, mais vont surtout avoir des effets bénéfiques au niveau de la protection. Ça va empêcher les mauvaises bactéries de venir adhérer à notre intestin. Ces bonnes bactéries-là vont produire des substances antimicrobiennes, vont aider dans la production d'anticorps, le développement de notre système immunitaire. On nous aide aussi dans des processus de digestion, dans la synthèse de certaines vitamines et donc une série d'actions qui vont être bénéfiques pour notre santé.
Et ce que j'ai cru comprendre en préparant l'émission, c'est que ces bonnes bactéries-là, plus on vieillit, donc on prend de l'âge, plus elles disparaissent, là, elles sont pas de façon éternelle dans notre organisme.
Mais en fait, il faut peut-être faire un peu la distinction entre les probiotiques et les bonnes mm-hmm. bactéries. Donc, mm-hmm. ce qu'on va parler, surtout principalement de notre microbiote intestinal. Lui, le microbiote intestinal, il fluctue dans le temps. Hein. Tous les jours, notre microbiote intestinal va être perturbé par notre alimentation, le stress, la prise de médicaments, nos habitudes de vie. Parfois, notre microbiote va venir s'enrichir. Parfois, il va s'appauvrir. Mm-hmm. Puis c'est au moment où est-ce que le microbiote va s'appauvrir que souvent, on va voir des problèmes de santé qui vont se manifester, parce qu'on va tomber à ce moment-là dans un état qu'on appelle de dysbiose, donc de déséquilibre au niveau de la flore digestive, une perte de diversité, et à ça, bon, peut découler différents problèmes de santé. Puis quand on le compare avec les probiotiques, parce que je pense que c'est un peu là que vous vouliez aller,
ouais.
dans le sens que les probiotiques, souvent, c'est des bactéries qui colonisent de façon temporaire l'intestin, donc ils vont pas nécessairement s'implanter à long terme. Le temps qu'on en consomme, les probiotiques sont présents. Après un certain 20 ans qu'on en consomme le plus, leur présence, elle est transitoire.
Là. Oui, voilà. Et bon, quand notre système immunitaire peut-être dépérit un petit peu parce que justement ces mauvaises bactéries ont pris un petit peu plus d'ampleur, c'est là que vient jouer un rôle important les probiotiques. C'est quoi ça, ces bonnes bactéries-là?
Bien, en fait, très simplement, les probiotiques, c'est des, comme vous dites, des bonnes bactéries, parfois des levures, qui procurent un effet bénéfique pour la santé. Ça, c'est vraiment la définition la plus simple. Je vous dirais qu'on connaît, globalement, on connaît surtout les probiotiques pour leur effet sur la santé digestive, pour aider à régulariser tout ce qui va être notre fonction intestinale, aussi pour moduler notre système immunitaire, renforcer nos défenses naturelles. Mais les recherches scientifiques et cliniques, parce qu'il faut le dire, hein, il y a de plus en plus de recherches sur le sujet des probiotiques, montrent que les bactéries probiotiques, on peut avoir aussi un impact significatif sur plusieurs problèmes de santé. On va parler ce qui ressort le plus au niveau des recherches, au niveau aide pour les maladies inflammatoires, maladies digestives, les effets secondaires dus à la prise d'antibiotiques, différentes infections, les infections Helicobacter pylori là, qui causent des ulcères d'estomac, infections assez difficiles, constipation, obésité, taux de cholestérol, bon, il y en a énormément. D'effets bénéfiques auxquels sont associés les probiotiques. Par contre, ce qui est important de souligner, puis je crois que c'est un élément quand même assez central, c'est que tout, parce que c'est un peu ce que vous disiez en début d'émission, ça semble être des bactéries qui guérissent tout.
Oui.
Mais en fait, c'est que l'effet, on va appeler ça en microbiologie, un effet qui est souche-dépendant. C'est qu'à travers les probiotiques, qui est un terme qui est relativement général, on retrouve différentes souches.
Uh-huh, okay.
Et à ce moment-là, on a certaines souches qui ont certains effets, et d'autres souches qui vont avoir d'autres effets. Puis pour permettre aux auditeurs peut-être de bien comprendre un peu le phénomène de souche dépendante, quand on pense, exemple, à la bactérie Escherichia coli, E. coli, là, que souvent on entend dans les médias, eh bien, il y a une souche qui est entéro-hémorragique puis qui cause ce qu'on appelle communément la maladie du hamburger puis qui est potentiellement mortelle comme infection. Et on a aussi d'autres souches de E. coli qu'on retrouve dans notre intestin et qui, elles, produisent de la vitamine K et qui est essentielle au système de coagulation. Et donc, on peut voir que pour une même bactérie, dans ce cas-ci, Escherichia coli, bien, dépendamment de la souche, j'ai un effet qui est complètement différent. Et chez les probiotiques, c'est le même principe qui se retrouve.
Mais je pense que c'est ça qui devient un petit peu mélangeant pour les consommateurs en ce moment, parce que ça aussi, je le disais tout à l'heure d'entrée de jeu, maintenant, les probiotiques, ils se retrouvent dans des produits que l'on consomme au quotidien, du jus, des céréales, des produits laitiers. Comment on fait pour se départager ces différentes souches-là?
Bien, en fait, je vous dirais que c'est surtout la raison pour laquelle vous voulez consommer des probiotiques qui va vous amener vers un produit plus qu'un autre. Et pour bien comprendre la distinction entre les produits, je sais que les probiotiques, souvent, on en retrouve en formule très concentrée au niveau des pharmacies.
Oui.
Et dans ce cas-là, discuter avec le pharmacien pour lui exposer notre problème de santé. Un, pour vérifier s'il existe bien des souches probiotiques qui ont des allégations pour aider à notre problème de santé, et si oui, mais lequel de des produits qui sont en vente va vraiment correspondre à notre besoin, toujours en s'assurant que les allégations qui sont soutenues par ces produits-là le sont faites sur des bases scientifiques, sur des bases cliniques, où on a vraiment démontré scientifiquement que mon produit probiotique X avait un effet sur ce problème de santé-là, et demander aux pharmaciens de nous guider à travers les produits.
Parce que ce qui est important à saisir, c'est que notre corps ne produit pas de probiotiques et on n'en retrouve pas, bon, évidemment, excepté les produits où on a ajouté des probiotiques, mais on n'en trouve pas nécessairement dans notre alimentation.
Bien non, en général, comme vous dites, ça va être des aliments soit qui vont être supplémentés en probiotiques ou encore là, on va consommer des produits qui sont, qu'on pourrait appeler 100% probiotiques, donc des concentrés de bactéries probiotiques, que ça soit sous forme de lait fermenté, par exemple, ou de capsules qui, eux, vont être des aliments qui sont 100% probiotiques.
Mm-hmm. Pour savoir si on en a besoin, on consulte notre pharmacien. Patrick, est-ce que vous conseillez, bon, bien sûr, vous n'êtes pas médecin et ça... Je pense qu'il faut le spécifier, mais est-ce que vous conseillez d'en prendre tout de même une dose quotidienne?
Bien, le dosage quotidien qu'on pourrait prendre de probiotiques, je vous dirais que ça dépend surtout de la raison qui nous amène à en consommer, parce qu'il y a plusieurs raisons, puis je pense qu'il faut en parler, parce qu'on peut consommer des probiotiques de façon préventive, que ce soit pour maintenir une bonne santé digestive, maintenir un bon équilibre, une bonne diversité au niveau de notre microbiote intestinal, qu'on en parlait plutôt en émission. On peut aussi en consommer encore de façon préventive, mais plus plus ciblé. Hein, si on va dans des zones tropicales, donc la prévention de la diarrhée du voyageur, prévenir les risques qui sont associés à la prise d'antibiotiques ou les risques qui sont associés aux infections assez difficiles en milieu hospitalier. Donc là, on est déjà dans une prévention plus ciblée. Ou encore là, on peut décider d'en consommer davantage comme un traitement. Puis là, je le dis entre guillemets, dans le sens que ça va peu nous aider à réduire certains symptômes du côlon irritable pour les gens qui en sont affectés, nous aider pour les gens qui souffrent de problèmes digestifs, ballonnements, gaz, inconfort, le traitement de la vaginite aussi, il y a certains probiotiques qui ont un effet à ce niveau-là. Donc, je vous dirais que la consommation qu'on va en faire, que ça soit de façon ponctuelle dans l'année, que ça soit à chaque semaine, à chaque jour, ça dépend des individus, ça dépend de l'effet qui est recherché. Oui, c'est vraiment ça qui va dicter notre consommation de probiotiques.
Et j'imagine, même chose, si on décide d'en prendre plus sous forme liquide, dans un yogourt, sous forme de capsule, tout ça aussi, ça va aller selon nos besoins.
Oui, effectivement, oui.
Bon, maintenant, certains diront, OK, les probiotiques, c'est cher. Pourquoi? Puis est-ce que le prix influence quelque chose?
Mais en fait, le prix des probiotiques, je vous dirais que c'est surtout le reflet que l'investissement que les compagnies ont fait au niveau de la démonstration préclinique, la démonstration clinique des effets thérapeutiques qui sont allégués, les investissements aussi qui sont nécessaires pour assurer des standards élevés au niveau de l'assurance qualité, au niveau du contrôle qualité, parce qu'on parle surtout des probiotiques qui sont en vente dans les pharmacies, des produits avec une concentration très, très, très élevée. Donc, il y a toute une infrastructure d'ingénierie, toute une infrastructure scientifique autour de ça pour livrer finalement aux consommateurs un produit à valeur ajoutée, un produit avec des qualités qui sont avérées, des certifications, et au final donner une garantie aux consommateurs que le produit pour lequel on lui dit qu'il va avoir un effet XY sur sa santé, bien que l'effet va bien être là.
Et qu'est-ce qui devrait guider soit de choisir un probiotique qui se retrouve dans notre yogourt ou vraiment d'y aller vers un supplément?
Je vous dirais, puis un peu, j'ai l'impression un peu de me répéter, mais...
C'est la qualité.
Pas nécessairement la qualité, mais c'est vraiment être la raison qui nous amène à en consommer. Okay. Parce qu'il y a des gens qu'on peut voir aussi dans les produits probiotiques qui sont en vente sur tablette, il y a différents dosages de probiotiques. Il n'y a pas nécessairement un dosage qui est meilleur, un qui est meilleur que l'autre. C'est des dosages qui sont adaptés à différents problèmes. Est-ce qu'on est plus dans le domaine de la prévention générale, de la prévention ciblée, ou vraiment dans une portion qui est plus presque thérapeutique? Et souvent, ces dosages-là sont le reflet des études cliniques qui ont été faites, des études dose-réponse, où on a comparé des cohortes de patients qui recevaient le probiotique versus ceux qui ne le recevaient pas, quel dosage ils ont obtenu, et finalement, lequel dosage a corrélé le meilleur effet. Et c'est à ce moment-là qu'on va s'orienter vers différents produits, puis dans le doute, les pharmaciens ou les nutritionnistes aussi d'ailleurs, ou même les médecins, les professionnels de la santé en général, peuvent nous aider à se retrouver un peu dans ce dosage-là, puis un peu dans le dédale des études scientifiques qui ont été faites pour savoir finalement qu'est-ce qui est probant, qu'est-ce qui se démarque et vers quoi on devrait s'orienter.
Pourquoi c'est gardé au frigo souvent?
Parce que c'est des bactéries qui sont vivantes et les températures qui sont plus froides vont ralentir leur métabolisme. C'est un peu le même principe que du lait, du yogourt. Mm-hmm. On les garde au réfrigérateur parce que justement, ça ralentit le métabolisme bactérien. Ça permet de les garder plus longtemps. Que des températures qui sont plus élevées ont tendance à activer le métabolisme des micro-organismes. Et si ce métabolisme-là est activé, bien, on a une durée de vie du produit qui est moins longue parce que ça reste un produit vivant.
Mm-hmm. On parlait tout à l'heure que ça peut être adéquat pour des personnes qui sont des personnes aînées, des personnes vieillissantes. Est-ce que les probiotiques peuvent être adéquats pour des enfants?
Encore là, c'est une question de souche spécifique. Hein. Il y a des produits probiotiques qui sont commercialisés pour aider à réduire les coliques chez les jeunes enfants. Ah oui. Donc, déjà là, on voit qu'on a des produits qui sont adaptés. À prime abord, il n'y a pas de contre-indication, je vous dirais, à en consommer, que ce soit des enfants, des adultes ou des personnes âgées à en consommer. C'est sûr que dans le doute, hein, si on n'est pas sûr, soit par rapport à l'âge, que ce soit très âgé ou très jeune, par rapport à notre condition de santé, je me répète encore, le pharmacien peut nous guider à ce niveau-là. Mais de façon générale, ou encore là, les compagnies elles-mêmes qui commercialisent les probiotiques, ils ont du service à la clientèle, on peut communiquer avec eux, leur poser la question. Mais de façon générale, j'ai des individus qui sont en santé, il n'y a pas de contre-indication parce qu'on est quand même dans le domaine des bactéries naturelles, bon, qui sont bonnes pour la santé.
Peu de risque de faire une overdose. Là.
Effectivement, on ne peut pas ne trop en consommer de façon générale.
En terminant, Patrick, je veux vous parler des prébiotiques. On parle beaucoup des probiotiques. On le disait tout à l'heure, les bienfaits sont connus, de plus en plus connus, les vertus également, on en parle depuis tout à l'heure. Les prébiotiques, un petit peu moins connus toutefois.
Oui, effectivement, et je vous cacherai pas que c'est un sujet que je connais aussi un peu moins, mais de façon générale, on dit les probiotiques, c'est des molécules qui ont pour rôle de stimuler la croissance de certaines bactéries qui sont bonnes pour notre santé, comme les probiotiques. Donc, ça va être des molécules qu'on retrouve dans l'alimentation que nous, on ne digère pas au niveau de notre intestin, mais qui va servir d'aliments préférentiels à certaines souches bactériennes et qui, là, vont les aider à se développer, à croître et à produire leurs effets bénéfiques pour la santé.
Donc, ça nourrit les bonnes bactéries.
Ça nourrit les bonnes bactéries. On retrouve des produits, des fois, qui ont les deux, hein, un prébiotique et un probiotique. Ah oui. Alors là, on va souvent appeler ça un symbiotique, là, la combinaison des deux. On peut consommer des probiotiques seuls, des probiotiques aussi, seuls de leur côté. Mais ce qui va vraiment comme conditionner le choix de un plus que l'autre, c'est le fait, est-ce qu'on se retrouve avec des souches probiotiques qui nécessitent la présence de probiotiques ou vice-versa? Puis ça, c'est vraiment toute la formulation et le produit qui va être développé, qui va guider vers un choix plus qu'un autre. Mais c'est pas des produits à mettre nécessairement en opposition dans le sens, moi, je suis plus prébiotique, moi, je suis plus probiotique. C'est des produits qui sont complémentaires puis qui sont adaptés à la prévention de différents problèmes de santé.
Oui, j'ai l'impression que s'il y a un manque de prébiotiques, les bonnes bactéries ne peuvent se nourrir. Donc, en effet, c'est assez complémentaire. Vous disiez, Patrick, que les prébiotiques se retrouvent dans notre alimentation. Est-ce qu'on sait quel aliment en contient?
Dépendamment des variétés de prébiotiques. Je sais que dans la racine de chicorée, on en retrouve dans l'ail, les oignons, les asperges. Donc, il y a différents aliments qui en contiennent naturellement. On peut avoir aussi des aliments transformés, exemple, mettons, comme le pain qu'on va avoir supplémenté en prébiotiques. Donc, je ne vais pas me tromper, mais je crois qu'il fut un temps où il y avait certains jus commerciaux qui étaient supplémentés en probiotiques, mais je crois aussi en prébiotiques, en tout cas, sous toute réserve. Et donc, on peut en retrouver, comme je vous dis, soit naturellement, soit de source naturelle, mais rajouté dans des éléments transformés, mais toujours dans le but d'aller chercher une meilleure santé digestive au final.
C'est toujours dans un but de santé, toujours aussi dans un but de prévention. Et oui. C'est pour ça que vous étiez là, vous qui travaillez chez Bioka notamment et qui êtes, je vais retrouver tout votre titre, qui êtes microbiologiste agréé et biochimiste et également président de l'Association des microbiologistes du Québec. On laisse votre site, le site de votre blog, Patrick, www.sciencepresse.qc.ca. Vous trouverez une panoplie d'articles et d'ailleurs une entrevue qu'on a fait ensemble il y a quelques semaines, quelques mois sur les antibiotiques. Donc, justement, consommons des probiotiques si on a consommé des antibiotiques et vous pourrez peut-être comparer un petit peu les deux sujets ainsi. Patrick, merci.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Mathieu Tessier à la mise en nom de Marianne Paquette au micro. Nous, vraiment, on se rapproche de la fin. Hein. Je vous rappelle que la dernière de C'est bon pour la santé est vendredi. Mais on reste là, nous, jusqu'à vendredi, bien sûr. Donc, dès demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.